voudrais demander à la sœur Rose de prier et le frère Médard nous fera la lecture.
Notre Dieu. Oui. Merci, Papa. Nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur, pour chaque chose, Seigneur. Toi qui s'occupes de nous, Seigneur, qui t'occupes du corps, de l'esprit, de l'âme, notre Dieu. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que tu connais nos besoins. Tu sais, Seigneur, notre Dieu, nous avons soif de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Tu nous envoies ta parole, notre Dieu, pour nous guérir, pour nous sauver, pour nous délivrer de toute maladie, de tout mal, notre Dieu. Notre Dieu, merci, Seigneur. En ce moment, Seigneur, notre Dieu, je demande pardon, Seigneur, là où nous avons, chacun de nous a failli, notre Dieu pardonne. Pardonne chacun de nous. Que le sang de Jésus-Christ coule dans la vie de chacun, que le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous sanctifie de tout péché au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, que le sang de Jésus lave toutes nos familles, notre Dieu. Ô Seigneur, je remets, Seigneur, ce moment entre tes mains. Que le Saint-Esprit de Dieu, que ton Esprit, Seigneur, nous dirige. Que ton Esprit, Seigneur, nous convainc de tout péché. Que le Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, nous ouvre les yeux, les oreilles spirituelles, afin que nous acceptions, nous mettons tout ce que tu nous dis à travers ta parole en pratique. Que le sang de Jésus-Christ agisse maintenant au nom puissant de Jésus. Et par le pouvoir que toi tu m'as donné, je m'en vais annuler tout ce que l'ennemi programme ou bien a programmé dans tes mains au nom de Jésus. Que ton feu détruise tous les plans, le projet de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Et je fais taire la voix de l'ennemi au nom de Jésus. C'est ta voix, Seigneur, qui sera entendue maintenant au nom de Jésus. Je remets le modérateur entre tes mains. Notre Dieu, remplis-lui de la tête aux pieds par ton onction au nom puissant de Jésus. Chaque personne, notre Dieu, je les remets en tes saintes mains, notre Dieu. Notre Dieu soit glorifié, notre Dieu soit béni. Au nom puissant de Jésus, je remets aussi tous les instruments, Seigneur. Moi, je ne connais pas les noms, mais toi, tu connais chaque chose, notre Dieu. Que toi seul, tu prends contrôle de chaque chose, notre Dieu, pour ta seule gloire. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.
Amen.
Merci, ma sœur Rose, pour la prière. Papa Médard, nous pourrions lire ce soir dans Marc chapitre 9, du verset 42 jusqu'à la fin du chapitre. Nous avons 9 versets ce soir.
Merci, Pasteur José de Canada. Nous allons lire dans 8 secondes. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assazonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen.
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 Merci frère pour la lecture. Frères et sœurs, hier nous avons médité sur, je pense que j'ai retenu trois points principaux. Le premier, c'était le Seigneur nous présenter à ses disciples ce que nous comprenons aujourd'hui comme le condensé de l'Évangile, c'est-à-dire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été livré pour nos fautes. Et il est ressuscité pour notre justification. Et c'est par là, c'est en croyant ce condensé que nous sommes arrivés nous aussi au salut. Et que ceux qui sont avec nous, que nous voyons, ceux avec lesquels nous cheminons ensemble, ne constituent pas la seule réalité du corps de Christ. Il y en a d'autres qui ne sont pas avec nous. Et c'est ce à quoi le Seigneur s'est attaqué pour montrer à Jean qu'il ne faut pas avoir un esprit sectaire. D'autres gens, d'autres personnes, d'autres frères et sœurs dans d'autres milieux servent aussi le Seigneur de la même manière que nous. Nous ne devons pas être de ceux qui empêchent que les autres travaillent, mais nous devons comprendre qu'ils sont de notre côté. Et puis ensuite, le Seigneur nous a parlé dans un troisième point sur la grandeur dans son royaume, nous donnant un principe auquel nous ne sommes pas beaucoup habitués, le principe de grandeur dans son royaume réfère au fait à l'humilité, être petit, servir les autres, c'est comme ça qu'on devient grand. Aujourd'hui, nous avons 9 versets, mais qui s'attachent encore au royaume des cieux. L'idée principale qui lie les éléments les uns aux autres ici, c'est la conséquence de faire tomber quelqu'un dans le péché. Et le Seigneur nous montre que alors qu'il y a l'ennemi, alors qu'il y a le monde, parfois, ces deux entités qui peuvent nous conduire au mal ne sont pas les seules. Parfois, le mal peut aussi être à nous. C'est pourquoi il nous donne ici l'exemple d'automutilation qui n'est pas à prendre au propre, mais plutôt au figuré, lorsqu'il dit que nous pouvons couper notre main, notre pied, ou même aussi arracher notre œil, si ceci nous conduit à le mal dans le péché. Mais avant cela, il va porter une attention particulière sur ce qui se passe lorsque un de ses plus petits de ses enfants est scandalisé. Le ton est solennel. Le ton est sérieux et nous devons vraiment faire attention parce que si le Seigneur prend ton solennel et sérieux, vous allez voir ce soir, il y a un refrain, c'est l'enfer, le feu de l'enfer qui attend ceux et celles effectivement qui scandalisent ou qui se laissent, qui aiment tellement des parties de leur corps que ceux-ci les conduisent à désobéir et finalement les renvoient en enfer. Voilà ce autour de quoi nous avons besoin de méditer ce soir. Trois questions qui vont nous aider à méditer. La première, de quoi ou de qui parle ce texte? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et puis ensuite, est-ce qu'il y a un ordre auquel je dois obéir? Lorsque nous méditons, lorsque nous intervenons, essayons le plus possible de répondre à ces questions. Ça nous aide à méditer, ça nous aide à comprendre le texte. Voilà où nous en sommes pour ce soir. Comme d'habitude, un coup d'œil rapide, s'il y a de nouvelles personnes sur ma liste, je n'en vois pas. Alors nous pouvons demander la parole et partager ce que le Seigneur nous met à cœur. 2 minutes pour chacun, et si nous en avons encore à redire, nous pouvons redemander la parole et elle nous sera donnée. Voilà. vais y aller. José, vous avez la parole.
Merci beaucoup, pasteur. Oui, frères et sœurs, je suis au verset 42. Ici, le Seigneur parle des scandales. Celui qui fait tomber dans le péché un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le jette dans la mer. Comme le disait le modérateur, le temps qu'a adopté le Seigneur dans cette section, hein, c'est-à-dire du verset 42 à la fin, c'est un temps dur, sévère, et nous devons en tenir compte. Au verset 42, nous avons deux personnes, si vous voulez, deux personnes qui ne sont pas égales sur le plan spirituel. Il y a un qui est en quelque sorte avancé et un autre qui est encore au début. On peut prendre le petit dans ce sens-là et le petit même sur le plan physique. C'est l'inexpérimenté. Donc, ici, que le plus fort, que le plus âgé dans la foi ne puisse pas induire le plus jeune en erreur. Peut-être que lui, le plus âgé, il a une certaine maîtrise, mais il expose le plus jeune à une situation que lui, le plus jeune, ne peut pas se contenir et malheureusement, il tombe dans le péché et le Seigneur condamne cela. Oui. Ce qui fait que, en un mot, nous devons tenir compte de nos semblables. Nous ne pouvons pas user peut-être de notre compréhension des choses pour exposer celui qui commence la vie chrétienne à des situations qui ne peut pas résister, qui peut le faire chuter. Et là, s'il chute, nous sommes condamnables, nous qui avons une certaine connaissance. Merci.
Merci, pasteur José. Dans le même verset, en fait, la gravité ou la solennité du temps est montrée par la punition administrée. Le Seigneur dit que dans un tel cas, un plus petit de ses enfants qui est scandalisé, l'auteur ou la cause du scandale, ce qu'il mérite, en fait, le Seigneur dit, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jeta dans la mer. C'est assez affreux, c'est très, très effrayant, ça mérite qu'on s'arrête un moment pour se demander dans ma vie, en ce moment, ou peut-être dans un passé proche ou lointain, ai-je scandalisé quelqu'un? Lorsque je comprends ce que le Seigneur réclame au scandale, à la personne qui scandalise, ça mérite un examen sérieux de conscience personnelle, individuelle. Le Seigneur tient tellement à ses enfants, il tient tellement à ses tout-petits que mieux vaut se garder de ne pas les scandaliser. La question qui va suivre peut-être à cela, parce que moi je me dis, lorsque j'effectue cet examen de conscience et que je vois l'horreur de la punition administrée, alors il faudra que je définisse ce que c'est qu'un scandale. C'est quoi scandaliser un enfant de Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire en pratique? Y a-t-il un exemple de scandale qui peut être nommé, énuméré? Alors ce soir, dans les interventions, peut-être que les frères et les sœurs peuvent apporter des éléments de réponse à cela. Parce que si nous ne saisissons pas, si je ne comprends pas bien ce que c'est que scandaliser quelqu'un, alors je peux continuer de le faire sans me rendre compte effectivement que je suis en train de faire du mal à quelqu'un. Alors peut-être que ce soir encore, le Seigneur nous éclairera davantage sur ce que lui entend par scandaliser. Merci beaucoup, Papa José. Dans le verset 43, oui, avant, je vais donner d'abord la parole à Papa Selewama Christine.
Oui, merci, Papa José, pour la parole. Le verset 42, il est en opposition au verset 41. C'est pour cela qu'on dit au verset 41 que si même quelqu'un vous donne à boire, ne fût-ce qu'un verre d'eau, parce que vous appartenez au Christ, vraiment, je vous l'assure, son geste ne sera pas oublié, il sera récompensé. Mais par contre, si quelqu'un détournait de moi un de ces petits qui ont confiance en moi et le faisait tomber dans le péché, il n'en tirerait à meilleur compte si on lui attachait au cou une de ces meules que font tourner les âmes si on les jetait dans le lac. Je parle de l'opposition parce que il y a un exemple qui est donné au verset 41. Mm-hmm. Un simple verre d'eau à boire. Un simple verre d'eau à boire vaut son pesant d'or dans les cieux. Mais par contre, celui qui devait donner le verre d'eau à boire, celui qui devait être le modèle, quand il ne fait pas ce qu'il devait faire, il scandalise les autres. Et les autres se disent, comment est-il possible que lui qui devait donner un verre d'eau à boire à tel frère, à telle sœur, il est incapable de le faire, alors nous aussi, si nous le faisons, donc ce bien. Donc en ce moment-là, le frère, la sœur, le bishop ou le pasteur, qui devait être un modèle pour le bébé, ce qu'il fait, il scandalise les autres, qui le regardent faire ce qu'il devait faire.
Mm-hmm.
Voilà comment nous pouvons, nous en tant que serviteurs de Dieu, ceux qui nous regardent, ceux qui considèrent que nous sommes les aînés, ce que nous faisons, nous scandalisons le petit. Voilà pourquoi nous devons vraiment examiner notre façon de vivre, notre façon de faire, notre façon d'agir dans l'église, dans le FIMES, partout. Tous ceux qui nous regardent, qui nous considèrent, qui nous appellent par des titres, des fois nous les scandalisons. Amen.
Amen. Merci, Papa Célé. Je considère cela vraiment comme aussi une réponse à la question de savoir ça veut dire quoi scandaliser. Et ça clarifie dans la pensée, dans la tête de beaucoup de personnes ce que cela veut dire. C'est pas seulement ceux qui sont en position d'autorité, qui sont en position d'autorité dans l'Église, qui peuvent scandaliser. Tout chrétien qui a, par un exemple, un père, une mère dans la maison, qui est aussi membre du FIMES ou qui va à l'église, qui demande aux enfants d'aller à l'église, et lorsqu'il est à la maison, que l'appel, on l'appelle, le téléphone sonne et qu'il dit, dites que je ne suis pas là. Quand il, surtout quand on dit ça aux enfants, de répondre ainsi, c'est scandaleux pour un enfant. Au fait, nous lui apprenons comment mentir, comment déformer la vérité, et c'est un scandale. Ça peut être à nos yeux de petites choses, mais le Seigneur ne veut pas que ses enfants soient scandalisés. Donner un verre d'eau, le Seigneur dit, ça ne perdra pas de sa récompense parce que c'est donné à quelqu'un qui m'appartient. Mais ne pas le donner aussi quand on en a, ça veut dire tout simplement c'est un scandale pour ceux qui savent que vous en avez et que vous ne l'avez pas fait, comme on vient de l'entendre. Merci beaucoup, Papa Céline. Une autre chose, dans le verset 43, que là, le Seigneur commence à nous montrer que nous pouvons avoir des ennemis, notamment le diable, les démons, et aussi le monde. Mais dans ce texte, ce soir, il m'apprend, il me montre que je peux, dans mon être, avoir aussi des parties de moi qui peuvent se comporter en ennemi pour moi. Ainsi, le verset 43 parle d'abord de la main. D'ailleurs, dans la suite, on verra que le Seigneur va prendre un exemple des membres de trois parties du corps, la tête, le milieu et puis les dessous, les jambes. Il prend sur chacune de ces trois composantes un seul élément comme exemple pour nous montrer que si nous ne faisons pas attention, le mal peut se trouver aussi en nous-mêmes. Et il va commencer avec la main. Je pense que Dieu nous a donné la main pour servir, secourir, soutenir, fortifier, etc. Et que lorsque la main est utilisée à autre chose qu'à ce pourquoi le Seigneur nous l'a donné, nous sommes alors en position de péché. Et le Seigneur dit, dans ces cas-là, c'est toi qui as la responsabilité, c'est moi qui ai la responsabilité de la couper. Bien entendu, frères et sœurs, encore une fois, le Seigneur nous parle ici d'une automutilation. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre au propre. Pourquoi? Nous savons que ceux qui appliquent la charia, si quelqu'un a volé, ils vont lui couper la main pour qu'il ne vole pas, qu'il ne vole plus. Est-ce que cela suffit pour faire de lui quelqu'un de bien? Parce que le Seigneur nous a dit, c'est pas seulement commettre l'adultère, aller avec une femme qui est un péché comme tel, mais celui qui la regarde pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Donc on peut cependant continuer d'être voleur dans son cœur parce qu'on en vit, parce qu'on pense du mal, on veut prendre ce qui n'est pas à soi, et cela est aussi un péché devant le Seigneur. Père, je pense que si c'est maman Christine qui veut parler, elle peut prendre la parole d'abord.
Oui, papa, merci pour la parole. Bien-aimé, je progresse, je suis au verset 45, parce que le 43 et 44 parlent de la main. Et 45, c'est encore un autre membre, les pieds. Bien-aimé, quand nous voyons les pieds que Dieu nous a donnés, je suis en train de comprendre que l'objectif de nos pieds, c'est se déplacer pour la cause du Seigneur, pour la bonne cause. Mais quand nos pieds, nous nous déplaçons par exemple pour aller faire un complot, nous nous déplaçons pour aller se me conduire, amener ses pieds n'importe où, donc nous devons savoir là c'est l'interprétation et tous les membres de nous.
C'est les membres. Je vais mettre un de téléphone à mute et puis je vais continuer. Vous pouvez y aller, maman.
Oui, merci, papa. Donc, pour dire que nos corps, c'est le temple du Saint-Esprit, et l'usage de notre corps, nous devons être de chaque membre. Dieu nous a donné la liberté de se servir de nos membres comme nous voulons. Et quand nous avons les pieds, vraiment, moi, c'est comme une interpellation. Ce n'est chaque fois que je sors, que je marche, que ça soit pour la bonne cause et non pour nuire, pour faire de mal. Parce que il y a toujours les scandales, là, que nous disons. Les scandales, c'est quoi? Ce sont les membres qui nous poussent d'aller faire ceci, cela pour faire un scandale. Donc, je ne veux pas scandaliser ceux qui me voient, qui savent que je suis une chrétienne. C'est pour cela que je demande au Seigneur la grâce de m'aider, de me sortir, de que mes pieds soient utilisés pour la bonne cause. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Maman Christine. Je vais donner la parole au frère Gaston.
Merci, pasteur José, pour la parole. Donc, les versets se suivent. Et je prends les versets 47, mais pour englober un peu tout ce que le Seigneur nous dit à partir des versets 43, je suis plus interpellé parce que le Seigneur nous dit que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si la main est là, coupe-la. Si c'est le pied, coupe-le. C'est être prêt à se faire violence, à prendre une décision radicale, et pas seulement prendre la décision radicale, mais passer à l'exécution pour que l'avenir soit meilleur, au lieu de considérer le bien présent qui n'est qu'éphémère. Alors, ça peut être la main, le pied, l'œil, quelque chose que je connais, que j'entretiens consciemment. Je sais que ça m'amène dans un mauvais côté. Il y a des gens, j'ai entendu quelqu'un qui s'appelait Vieux Volcan. Donc, lui, quand il se met en colère, c'est du feu qui sort et qui brûle tout le monde. Et personne ne peut se mettre à ses côtés. Alors, je deviens une occasion de chute pour l'autre. Je peux être dans la masturbation, dans l'orgueil. Quand je parle, c'est toujours moi. Et personne d'autre ne peut prendre la parole. Personne d'autre ne peut dire quelque chose de bon. Je suis appelé à prendre, à me faire violence, à me détacher de cet élément-là qui peut être une occasion de chute pour l'autre. Que pour se détacher de cela, il faudra que je marche et je recherche la sanctification, que je demeure dans la sanctification. Et pour ne pas être une occasion de chute, c'est dans cette sanctification, je dois faire une introspection à moi. Parce que je suis habitué, mon œil voit, ma main fait ça, mon pied me dirige, et j'ai dit que c'est normal. Je dois faire une introspection à la lumière du Saint-Esprit au lieu de chercher les honneurs de ce monde dans mon égoïsme, dans les mensonges que j'entretiens. Et pourtant, d'autres savent que non, quand il ouvre la bouche, c'est pour mentir, que je me détache de cela pour me détacher des honneurs de ce monde. Au lieu d'aller dans le feu qui était préparé pour le diable, que moi, je m'examine et je redémarre dans la sanctification et que je puisse vivre. C'est ce qui m'a beaucoup interpellé dans ces passages et je vois un élément plus qui est là, la sanctification, pour éviter d'être une occasion de chute pour les autres. Merci.
Merci, mon frère. Je vais donner la parole à Papa Thomas.
Je suis vraiment effrayé par le sort de celui qui scandalise parce que la fin, sa destination finalement, Jésus dit, c'est la gêne. Et la gêne, c'est donc, c'est comme un feu organisé. Mais il est décrit ici, pendant, pratiquement tout le passage décrit qu'on doit le jeter. D'abord, on parle au 42 qu'on jette la personne comme si on doit le jeter dans l'eau avec le moulin qui est au cou. Mais ensuite, on décrit l'enfer ici comme un lieu de feu qui ne s'éteint pas, verset 43. Ensuite, le ver ne meurt pas, le feu ne s'éteint pas, verset 44. 45, le feu ne s'éteint pas, on le jette là-bas, le feu ne s'éteint pas, le ver ne meurt pas, le feu ne s'éteint pas. Et ça continue au verset 47, c'est la même chose, le ver, c'est toujours la géhenne où le ver ne meurt pas, le feu ne s'éteint pas. Et moi, je trouve ça, c'est très sérieux que le Seigneur répète ça. Et c'est très sérieux que c'est dangereux, c'est mauvais. Et c'est, l'enfer, c'est un pays qu'il faut éviter. Parce qu'effectivement, Jésus est Dieu et il a créé l'enfer pour Satan et ses anges, mais pas les hommes. Mais les hommes, celui qui scandalise, il signe avec Satan d'aller dans ce pays ici, un pays où il y a les grincements des dents, il y a le feu, il y a le ver qui ne s'éteint pas, et le corps est salé pour occasionner davantage plus de feu. C'est ça que la Bible dit. Car verset 49, tout homme sera salé de feu. C'est-à-dire, c'est pour rallumer le feu, le soufre. Donc, je voulais seulement nous rappeler ici que l'enfer est décrit ici de manière répétitive et nous devons faire attention parce que pour y aller ici, d'après le texte, ça prend seulement d'être quelqu'un qui scandalise, c'est-à-dire un empêcheur du travail de Dieu. Scandaliser, c'est être un acteur d'empêchement de l'œuvre de Dieu. Merci.
Papa Thomas, nous reviendrons peut-être aussi à un autre sens du verset 49 plus tard, mais comme on vient de l'entendre, c'est un des textes très courts, mais dans lequel le Seigneur a mis beaucoup d'accent sur la réalité de l'enfer. Peut-être que ça nécessite qu'on explique un tout petit peu dans la pensée des contemporains du Seigneur. Ceux et celles qui vivaient avec lui à cette époque-là, à côté de Jérusalem, il y avait une vallée qu'on appelait la vallée de Hinnom. Cette vallée, c'était au fait comme une décharge municipale où on allait déverser toutes les ordures de la ville et ces ordures devaient être brûlées. Donc, le feu dans cette vallée ne s'éteignait pas parce qu'il fallait le garder vif tout le jour, du matin au soir, la nuit, etc. Mais c'est aussi un lieu, comme vous pouvez l'imaginer, un lieu de dépotoir, ça sent mauvais, parce qu'il y a inévitablement la putréfaction des produits ménagers, etc. Donc le feu côtoyait le verre. En même temps, c'était un feu qui ne s'éteignait pas, qui ne devait pas s'éteindre. Donc, le Seigneur, en parlant de la géhenne, d'où vient le nom de la vallée de Hinnom, fait voir, en fait, c'est un exemple très vif dans la pensée de ceux qui l'écoutent, parce qu'ils connaissent tous cette vallée, là où elle est, et comment elle est. On ne peut pas vivre à côté. On ne peut pas y être, il y a tellement de chaleur, il y a tellement d'odeur, etc. Le Seigneur utilise cette image-là pour montrer qu'au plan spirituel, c'est lui qui scandalise, c'est lui qui s'adonne à des pratiques impures. Voilà son sort. Il devient comme cette ordure ménagère qui doit être jetée dans la vallée. C'est là que se trouve sa place. Donc, c'était très fort dans la pensée de ceux qui écoutaient le Seigneur. Avant de donner la parole au pasteur José, Sœur Rose, vous avez la parole.
Oui, papa. Merci, merci beaucoup, papa. Je reviens au verset 43, là où on nous parle, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Vaut mieux pour toi d'entrer manchant dans la vie. » Ça, c'est lui, c'est bon. Depuis le matin, vraiment, je suis en train de penser à cela, ce que Dieu me met dans le cœur. Je ne sais pas si dans le corps du Christ, il y a des gens qui font ces pratiques-là que je vais parler maintenant. Vraiment, j'ai hésité. Hein? Depuis le matin, j'ai hésité. Bon. Alors, je me suis dit, bon, si c'est le Seigneur que je partage aussi avec vous. La main, les deux mains que Dieu nous a données, il y a quelques personnes jusqu'à présent dans le Seigneur qui font la masturbation. Alors, ce n'est pas un bon exemple à suivre. Les mains que Dieu nous a données, nous adorons Dieu les mains levées. Nous faisons beaucoup de choses avec les mains que Dieu nous a données. Et il y a d'autres personnes qui suivent les mains avec des pratiques impures. Vraiment, ce n'est pas bon. Bon, c'est ce que je voulais dire, partager avec vous, ce que Dieu m'a mis au cœur. Amen.
Amen.
Merci, ma sœur. Peut-être quelqu'un d'autre interviendra plus tard pour éclairer davantage aussi ce que la main aussi peut représenter aujourd'hui. Il y a ce que nous faisons avec, comme les pieds, comme les yeux aussi, parce que c'est des parties du corps qu'on ne va pas prendre, qu'on peut prendre dans ces cas, comme dans les deux exemples dont on vient de parler, ça peut être pris au propre et aussi au figuré, dans un sens que personne ne voudrait se couper la main ou le pied ou s'arracher l'œil de manière littérale. Nous voulons rester intègres physiquement. Nous voulons garder tous les membres du corps. Dans un autre sens, avons-nous des relations qui ne nous aident pas spirituellement? Suis-je attaché à quelqu'un ou à quelqu'une, suis-je dans une relation qui ne peut pas plaire au Seigneur? Ça peut aussi représenter une main, un pied ou un œil. Si j'ai des relations avec quelqu'un que j'aime, je tiens tellement à la personne comme je tiens beaucoup à ma main, et que cette relation n'est pas quelque chose qui honore le Seigneur, je suis appelé par le Seigneur à m'en séparer, c'est-à-dire couper, m'éloigner de cette relation-là. Voilà un peu aussi une autre façon de voir le fait de couper sa main, son pied ou arracher son œil. Je vais donner la parole au papa José, vous allez attendre encore un petit peu. Le pasteur Richard va parler d'abord.
Merci beaucoup, papa, pasteur, pour la parole. Je crois que, du moins, tout ce qu'on vient de partager là, c'est bien. Mais je crois que nous devons aussi prendre littéralement ce que Jésus dit ici. Quand Jésus dit « coupe ta main, coupe ton pied, enlève ton œil », parce que jusque-là, comme si nous ne nous prenons pas encore au sérieux les choses de Dieu. Et ici, Jésus veut nous faire comprendre l'importance, les dangers d'aller en affaires parce que juste, je n'ai pas voulu couper ma main. Imaginez, nous venons dans un camp biblique, par exemple, et quelqu'un dit que non, on a vu un frère tel en train de faire la masturbation. Je ne sais pas si moi j'aurais le courage d'aller le saluer. Alors, si moi je ne peux pas aller le saluer, quelque part dans ma tête, cette main-là est impure. Et ici, je crois que Jésus veut nous faire comprendre que c'est vrai que de temps à autre, nos parties du corps, nous les adorons plus que la crainte de l'Éternel. Donc, c'est vrai que nous devons nous séparer des amis, séparer des programmes de télévision, mais il y a d'autres parties du corps qui ne sont pas encore assujetties dans le Seigneur. Et je crois que si on commence par là, ça pourra apporter une certaine crainte, je ne sais pas, au Congo, quand on commençait à brûler les voleurs, à couper les mains des voleurs, ça affectait les gens quelque part. Donc, je crois que nous devons aussi, non pas négliger le langage littéral que Jésus utilise ici. J'ai observé dans l'armée, quand vous allez dans l'armée, donc ton corps devient une partie privée du gouvernement. D'où on défend même dans l'armée de se faire du tatouage. Mais maintenant, moi je ne peux pas aller dans l'armée juste dire que je vais faire ce que je veux faire. Et ce n'est que dans l'église où nous avons tendance à « Ah non, ça ce n'est pas vraiment. Donc je vais faire ce que je veux faire. » Mais donc, on cherche des échappatoires. Je crois qu'il est très important à nous, les enfants de Dieu, que nous commençons à montrer le sérieux dans ce que nous faisons. Pas Thomas a cassé le cell phone d'un monsieur. Ce sont là les exemples. Non, détruis ça. C'est un pas déjà vers ta délivrance. Mais nous ne voulons pas détruire le programme de télévision. Nous ne voulons pas déranger nos horaires. Nous ne voulons pas. Mais dans l'entretemps, nous espérons que la sainteté de Dieu puisse nous envahir. Ça ne viendra pas. Et vraiment, nous devons prendre au sérieux. Y a-t-il quelque chose dans ma vie que je dois couper? Merci.
Je crois que nous avons besoin de faire attention sur le caractère, disons, les aspects, l'application littérale, je vais bien dire littérale, l'application de la mutilation. N'oublions pas comment le Seigneur a défini l'origine du péché dans un des textes précédents la semaine passée. Il nous a montré que c'est du cœur que viennent toutes ces choses. Et devrions-nous arracher le cœur aussi? Je pense que ce qu'on peut, on peut comprendre le caractère solennel, sérieux, comment le Seigneur prend au sérieux le fait d'être pur, d'être saint. Et si nous voulons demeurer avec un cœur pur, si nous voulons marcher dans la pureté, évidemment, la pratique de ces choses, du vol, de la convoitise et de bien d'autres choses, nous en écarterons. Donc, comprenons davantage que le Seigneur a parlé, que c'est du dedans que viennent toutes ces choses et que celui qui peut vraiment échanger, nous donner un autre cœur, c'est lui, il nous l'a promis à quiconque le lui demande, le Seigneur peut intervenir, enlever de nous le cœur de pierre, nous donner un cœur de chair, et ainsi, quand nous avons un cœur pur, le reste va aussi aller bien. Merci. Papa José, vous avez la parole.
Oui, merci. Je voulais dire quelque chose sur ce qui a été justement dit au sujet du feu. J'ai un verset dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, verset 46. Matthieu 25, verset 46, il est dit, « Et ils iront subir la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. » Nous avons ici deux sortes de vie, vie éternelle avec Dieu et une vie aussi éternelle dans le feu. Le verset ne parle pas de feu, mais un peu plus haut. Plus tout ce qui a été dit et ce qui est écrit, nous appuyons que le feu éternel existe et la vie éternelle existe. On ne doit pas prendre ça sous forme d'image, mais c'est une réalité. Le Seigneur a donné un exemple de cet homme qui était riche, qu'on appelle Lazare, et le riche sans nom. Le riche, en mourant, il est entré dans un lieu où il y avait le feu, et Lazare est allé là où reste Abraham, dans un lieu paisible. Et ce lieu-là, à la fin des temps, on verra tout ça. Ici, je voudrais enlever le lieu intermédiaire entre le feu éternel et le ciel, où est le Seigneur. Un lieu quelque part là, provisoire. Non, la Bible ne parle pas de lieu provisoire. Il y a seulement deux lieux, où il y a le feu et où il y a la vie éternelle. Et nous pouvons, à partir d'ici, de ce moment où nous vivons, choisir tout cela. Voilà, bien-aimés, ce que j'ai voulu nous dire, c'est que ce que nous avons lu, nous devons le prendre à la lettre. Le Seigneur ne nous donne pas les images pour nous faire peur. Non, il nous dit la vérité. Et qu'à la fin, ce sera ça. Voilà, merci.
Merci, frère, d'insister sur cet aspect. Si on peut parler des images qui peuvent être représentées ici, mais la vérité du feu, ce n'est pas une image comme telle, c'est la vérité, c'est ce que le Seigneur dit. Luc chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'à la fin, donne effectivement cette histoire dont le pasteur vient de parler, de Lazare et du riche. Donc c'est un fait, ce n'est pas juste une image. L'enfer est une réalité, le Seigneur en parle, et nous parlons là de toute façon un texte très court, mais dans lequel le Seigneur met beaucoup d'accent sur la réalité de la punition qui est ici matérialisée par l'enfer. Merci, pasteur. Papa Célé ou Mama Christine, vous avez la parole.
Oui, merci, Papa José, pour la parole. Les deux derniers versets nous parlent du sel. On va nous dire que le sel est une chose précieuse sur la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi est-ce qu'on peut lui rendre son goût original? Alors l'ordre qui nous est donné, c'est que ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Donc, le Seigneur, nous connaissons le rôle du sel même dans notre en siècle de la technologie, le sel reste a toujours une grande valeur, soit pour la conservation, soit pour la nourriture. Et même dans le temps, il y avait même des traités de sel qui étaient vraiment des alliances qu'on ne pouvait pas rompre parce qu'on s'est basé sur le sel, sur la réconciliation très très profonde. Mais le Seigneur prend toutes ces images pour nous dire « Ayez en vous du sel », pour nous dire que chacun et chacune d'entre nous doit donner un bon goût partout où on est. Il ne faudra pas que quand on est quelque part, tout le monde est en train de nous fuir parce que nous ne savons pas écouter, nous ne savons pas parler, nous ne savons pas aimer, nous ne savons pas pardonner. Tout le monde nous fuit. Non, ça, ce n'est pas la caractéristique du chrétien. Le chrétien ou la chrétienne doit être une personne réconciliante, une personne qui aime, une personne qui pardonne, une personne qui s'humilie. Donc, toutes ces caractéristiques sont semblables, en fait, au fruit du Saint-Esprit qui doit vraiment jaillir dans le chrétien ou dans la chrétienne. Amen.
Amen. Merci, Papa Célé. Papa Thomas, vous avez encore la parole rapidement, parce que nous avons déjà presque dépassé.
Oui, c'est juste pour dire que le chrétien que nous sommes, nous allons au ciel, nous n'allons pas en enfer. Le chrétien qui a le Fils de Dieu en lui, il a la vie éternelle. Nous sommes en train de partir au ciel. Donc le verset 50 là, ce que le pasteur vient de dire est très important. Nous sommes obligés d'avoir le sel en nous, vivre en paix avec les autres, c'est-à-dire faire le bien et avancer dans la vie chrétienne avec victoire, parce que la destinée du chrétien, ce n'est pas l'enfer. La destinée, c'est lui qui a Jésus, il a la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle, nous sommes en train de partir au ciel. C'est pour cela, on nous demande de ne pas vivre en scandaleur, de ne pas vivre en des personnes qui s'opposent à l'évangile, mais de gens qui font le bien et qui marchent vers le ciel. Parce que l'enfer, c'est pour ceux qui ont refusé Jésus et qui ont dit non à l'œuvre du Saint-Esprit d'être convaincus du péché. Mais nous qui avons cru en Jésus, nous qui sommes enfants de Dieu nés de nouveau, nous ne sommes pas en train de partir vers l'enfer, mais nous sommes en train de partir au ciel, mais ne jouons pas le rôle de l'ennemi puisque Jésus est en nous. Merci.
Merci, frère. Bien-aimé, le Seigneur, ce soir, nous montre au fait qu'il n'y a pas de péché qui mérite que nous allions en enfer à cause de lui. Ça veut dire que nous l'aimons tellement au point que la finalité, c'est nous amener loin du Seigneur. Il n'y en a pas. Nous ne pouvons pas les aimer à ce point-là. Par contre, il nous appelle, si nous constatons un mal à nous, de nous en repentir. La repentance, c'est une renonciation au mal au profit de Dieu. C'est une manière de nous séparer de ce que nous avons aimé, des choses en nous, au plan physique, au plan social, même intellectuel, etc., des choses auxquelles nous sommes tellement attachés, comme nos mains, nos pieds, etc., mais qui, si nous les gardons, elles vont nous envoyer loin du Seigneur. La repentance est la solution de Dieu pour que nous nous séparions de tout ce qui est impur, immoral, malsain, pervers, afin de nous tourner vers Dieu, que nous disions non, que nous renoncions en tout cas à ces choses pour nous tourner vers Dieu. C'est ce que le Seigneur veut, c'est ce qu'il souhaite, c'est ce qu'il désire, et c'est ce que nous choisissons aussi d'être. Pourquoi? Parce que la nouvelle vie que Dieu nous a placée à nous, c'est cette vie-là qui va nous aider Le Saint-Esprit demeure en nous. Il nous convainc de péché. Il nous aide à marcher dans la pureté. Il est au fait le paraclet, c'est-à-dire la personne qui est placée à côté de nous pour nous encourager, nous aider à continuer la marche. Donc, tournons-nous vers le Seigneur en renonçant à tout ce qui est mal, tout ce qui est pervers, afin que le Seigneur nous accueille. N'a-t-il pas dit, ne touchez pas à ce qui est impur, afin que je vous accueille. Donc, si nous nous détournons du mal, le Seigneur nous accueillera et ainsi nous continuerons toujours notre marche. Voilà pour ce soir. Papa Célé, pourriez-vous nous donner les annonces?
Oui, merci Papa José. C'est juste saluer les frères et sœurs qui sont à la radio depuis les États-Unis, le Québec, Ontario et Alberta. Soyez bénis, vous qui aimez la parole comme nous. Aussi nous rappeler que le camp approche à grands pas et nous continuons à prier, nous continuons à soutenir, que le Seigneur soit béni pour l'avancement de tous les préparatifs. Amen.
Amen. Demain, nous allons lire dans le psaume 44, c'est un psaume, nous allons lire du verset 1 au verset 17. Psaume 44, verset 1 à 17. Et nous aurons les deux premières questions, donc questions 1 et 2, pour nous aider à méditer. Frère Albert, est-ce que vous m'entendez?
Oui, mon frère, je vous suis.
Est-ce que vous pouvez prier le Seigneur pour nous, s'il vous plaît?
Prions l'Éternel. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce soir. Nous te rendons grâce, mon Dieu, parce qu'une fois de plus, tu nous as prouvé combien tu nous aimes, combien tu veilles sur nos âmes et sur nos vies. Car nous sommes plus que contents, non simplement parce que nous pouvions parler ce soir, entendre, voir, mais surtout que nous sommes rassurés d'une chose. Couvert par le Saint-Esprit, lavé et purifié de toutes nos iniquités, de nos péchés, justifié par son nom, nous avons l'assurance, notre Dieu, d'être avec toi dans l'éternité quand tout ceci prendra fin. Merci notre Père pour les frères et sœurs qui venaient de nous partager ce que l'Esprit a déposé dans leur corps. Quelle richesse, notre Dieu. Mais Père, t'esprit par ta grâce, afin que par l'œuvre du Saint-Esprit, nous puissions non seulement être ici pour entendre, mais parce que Seigneur Dieu, tu nous veux pour le bonheur. Et tu veux que nous puissions nous conformer à ta volonté et nous, Père éternel, à mettre en pratique cette parole, car sinon nous passons notre temps en vain. Merci, Père, pour le frère qui nous a dirigé. Merci, Père, pour tous les dirigeants de FIMES, les camps bibliques qui viennent, les préparatifs, et tout Seigneur Dieu qui doit se faire pour qu'enfin, les trois jours que le frère et sœur vont être ensemble dans ta présence, bien sûr, puisse être Père éternel de jours glorieux qui porteront gloire à ton nom, délivrance, jamais Père éternel pris en otage par le péché. Notre Dieu, merci pour ce soir. Merci pour ta parole. Merci pour la disponibilité du temps. Merci Seigneur Dieu pour le Saint-Esprit, ce grand consolateur, ce grand maître. Ô Père, rends-nous plus attentifs à sa présence au milieu de nous, car très souvent, nous le négligeons. Nous parlons beaucoup du Père, du Fils, mais parfois très rare du Saint-Esprit, alors qu'il est le compagnon de tous les jours dans nos vies. Sans lui, Père éternel, il est impossible, pratiquement impossible, de vivre une vie conforme à ta parole et à tes préceptes. Aide-nous, Père éternel, de reconnaître cela. Sois avec nous, couvre-nous par le sang de Jésus, sanctifie-nous, purifie-nous, renforce et affirme notre foi, Père. Bénis les dirigeants, bénis ton peuple, bénis, Père éternel, ta parole, et que ton nom soit élevé pour l'éternité. Père, dors avec tout un chacun de nous, qu'à la fin de tout, ton nom seul puisse être glorifié dans nos vies. Et que nos langues chantent à tous les jours tes bonheurs pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.
Amen. Merci beaucoup, mon frère, pour la prière finale. Bonne soirée à tout le monde et à demain. Merci.